Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Academy. Nous continuons d'interroger la notion de mémoire en nous intéressant aujourd'hui au statut. Elle manifeste dans l'espace public l'importance de certaines figures de notre passé, mais la gloire est versatile. Certains ont pu être admirés en leur temps, puis faire l'objet d'une opprobre dont leurs représentations font les frais. C'est le cas des personnages liés à l'histoire de l'esclavage ou de la colonisation. Les statues de la discorde, voilà le titre du dernier livre de Jacqueline Lalouette aux éditions Passé Composé. Bonjour.
Bonjour Priscille.
Alors, les statues cristallisent toujours de nombreux enjeux. Pourquoi est-ce le cas? Pourquoi est-ce que ces œuvres d'art peuvent devenir aussi politiques?
Parce qu'elles incarnent dans l'espace public le souvenir d'hommes dont l'action ou les écrits sont contestés actuellement pour des motifs divers, alors qu'à l'époque où leurs statues ont été érigées, ces personnalités étaient au contraire admirées, vénérées et offertes en exemple à la population. Et les deux sujets sulfureux ou chauds, comme vous voulez, qui ont récemment provoqué des actes de vandalisme contre les statues sont d'une part l'esclavage et l'histoire de l'esclavage et de la traite négrière et deuxièmement l'histoire de la colonisation. Pour ce qui concerne la France, mais également la Belgique, en fonction des aires dans le monde, les statuts contestés ont plutôt été liés à l'esclavage ou à différentes formes de ce qu'on appelle l'ethnocide, notamment l'ethnocide culturel. Et dans d'autres aires géographiques, l'histoire de la colonisation et du colonialisme ont donné plus de prise à des actes anti-statut, on va dire.
Les actes de vandalisme envers des statues ne sont pas nouveaux, on en retrouve tout au cours de l'histoire et dans certaines périodes en particulier, pendant la période protestante par exemple, au moment des guerres de religion, mais aussi lors de la Révolution française. C'est un moment où on repense complètement la place des statues dans l'espace public.
Alors, pour la France, effectivement, parce que chaque pays a son histoire en matière de statuaire public, pour la France, avant cet épisode de 2020, il y a eu des épisodes, en fait, beaucoup plus destructeurs, qui ont été, premièrement, l'iconoclasme protestant, notamment dans l'année 1562. Et là, les statues vandalisées, enfin détruites, étaient des statues qui se trouvaient sur les façades d'églises, cathédrales, basiliques ou à l'intérieur de ces monuments. Et puis, il y a eu ensuite la Révolution française, 1792, avec un double objectif, qui était d'une part la récupération du bronze des statues pour fabriquer des armes, puisque 1792, c'est le moment où la guerre éclate avec les coalitions européennes, mais également la destruction des effigies, des personnalités représentées. Et il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de statuaire public comme nous en avons maintenant. Les seules statues qui se trouvaient en place publique étaient à la quasi-totalité des statues royales et souvent des statues équestres qui se trouvaient au centre de place qu'on appelait justement les places royales. Les principales villes du royaume avaient cette place royale avec une statue équestre du roi, qu'il s'agisse d'Henri IV, de Louis XIII, de Louis XIV. Voilà. Et donc ces statues ont été détruites en 1792, conformément à deux décrets qui ont été pris à ce moment-là, où le contexte est totalement différent, puisque on s'est mis à ériger des statues en place publique, ce qui avait été, à dire vrai, un projet qui avait pris naissance déjà vers la fin du règne de Louis XVI, mais qui n'avait pas pu aboutir à cause des événements, où il s'agissait de glorifier le grand homme ou les grands hommes, puisque ce concept, cette notion de grands hommes s'est développée tout au fil du XVIIIe siècle et il a semblé à ce moment-là cohérent, juste de montrer les effigies de ces personnalités afin qu'elles servent d'exemple.
Donc les paysages dont nous sommes coutumiers dans nos villes en réalité datent du XIXe siècle.
Du tout début du XIXe siècle, les premiers bustes, les premières statues qui ont été érigées, à ma connaissance, sont de 1801, avec des bustes de Napoléon, un buste d'Homère à Marseille, et puis progressivement, de régime en régime, le rythme est allé en s'accélérant. Le consulat et l'empire ont très peu statifié, mais il y a eu le fameux Colbert, donc peut-être on aura l'occasion de parler tout à l'heure. La restauration, un peu plus, mais malgré tout pas beaucoup. La monarchie, encore un petit peu plus. Et comme ça, chaque régime est allé en accélérant le processus, en statifiant des catégories de personnes toujours plus nombreuses et toujours plus diversifiées. Et la grande période d'expansion de la statuaire publique a été la Troisième République, notamment pendant la période 1878-80, 1914. Mais l'entre-deux-guerres a continué de bien statuifier. Alors, nous aurons peut-être l'occasion de reparler des périodes ultérieures plus tard.
Vous connaissez bien tout ce peuple de statues, parce que c'était le titre de l'un de vos livres aux éditions Marais et Martin. Qui sont les personnages les plus représentés ?
Alors, il y a trois... Alors, on va voir en fonction du genre, enfin du sexe, du genre comme on dit maintenant, et puis également de la catégorie socio-professionnelle. Alors, si on voit du côté du genre... Pas de problème, les hommes sont omniprésents et les femmes sont vraiment une catégorie, mais sous-représentée. Quand j'ai fait ce livre qui est sorti en 2018, donc un peuple de statues, la célébration sculptée des grands hommes, j'avais environ 7% de statues de femmes. Parce que j'avais compté dans ce livre à peu près 130 statues de Jeanne d'Arc, ce qui faisait augmenter le pourcentage des femmes à un peu plus de 7%. Sans Jeanne d'Arc, on descendait environ à 4%. Et puis j'ai fait récemment, à la demande du diocèse de Beauvais, un travail sur les représentations de Jeanne d'Arc dans l'espace public, où j'ai repris le dossier beaucoup plus, de manière beaucoup plus approfondie que je ne l'avais fait en 2018. Et je suis arrivée là à plus de 200 statues de Jeanne d'Arc dans l'espace public. Ce qui fait encore monter le pourcentage de statues de femmes, mais enfin qui reste quand même ultra minoritaire. Alors pour les catégories socio-professionnelles, on a trois catégories dominantes, les hommes politiques, les écrivains et les militaires qui arrivent en troisième position. Et puis ensuite, on a toutes sortes de catégories. On a des hommes d'église, on a des ingénieurs, on a des médecins, on a des architectes, on a des découvreurs, explorateurs, marins, etc. Enfin, c'est à l'infini, en quelque sorte. Toutes les catégories peuvent être représentées. Des montagnards, des statues d'alpinistes, de pyrénéistes, enfin bref, des chanteurs, des acteurs, des actrices, voilà.
Vous dites qu'en 2018, quand vous avez écrit votre livre, personne ne s'intéressait vraiment à la statuaire publique. Et deux années plus tard, en 2020, le sujet s'est imposé dans l'actualité avec ces actes de vandalisme qui ont commencé en Martinique envers la statue de Victor Schœlcher.
Alors, je vous ai dit ça pour le livre paru en 2018 parce que, alors bien sûr, les historiens d'art s'intéressaient beaucoup à la statuaire publique. Ils n'ont jamais cessé. Mais quand j'ai proposé ce livre, Un peuple de statues, j'ai essuyé des refus de plusieurs éditeurs. Avec cette réponse, les statues n'intéressent personne, ce qui m'a beaucoup fait rire en 2020, en effet. Et alors, en 2020, le point de départ du vandalisme contre les statues dans le monde, ça a été la mort de George Floyd le 25 mai, après cette scène de l'agonie de 8 minutes 46 secondes et les destructions qui ont commencé aux États-Unis le 31 mai. Mais la France, pour un tout autre motif, avait pris les devants, si je puis dire, parce que le 22 mai, en Martinique, ont été détruites, ce qui peut paraître invraisemblable, deux statues de Victor Schœlcher. Le 22 mai étant un jour particulier pour la Martinique, parce que le 22 mai 1848, avant que le gouverneur français portant le décret d'application du décret d'abolition du 27 avril, donc il y avait ce décret, le gouverneur a porté un décret disant « En vertu du décret du 27 avril, les esclaves vont être affranchis, libérés, etc. » Et ça devait se produire au début du mois d'août, je crois, cet affranchissement. Mais les esclaves de Martinique qui avaient connaissance du décret du 27 avril étaient impatients et donc ils n'ont pas attendu l'arrivée du gouverneur, ils n'ont pas attendu que ce soit officiellement proclamé sur leur sol et il y a eu une insurrection d'esclaves les 21, 22, 23 mai et le gouverneur par intérim a décidé d'arrêter là les frais en disant « on a franchi tout de suite ». Et ce qui fait que pour toute une partie des Martiniquais, de la jeunesse martiniquaise, les vrais libérateurs des esclaves noirs, ce ne sont pas les Français qui ont aboli l'esclavage en 1848, Victor Schœlcher en tête, mais ce sont les esclaves qui se sont libérés eux-mêmes. Mais il y a des historiens martiniquais, j'allais dire plus raisonnables, qui disent ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est des efforts conjugués qui ont fait que l'affranchissement, que la liberté des esclaves a été proclamée. Parce qu'il faut dire aussi qu'avant cette insurrection de mai 48 des esclaves, il y avait eu à plusieurs reprises dans l'histoire des révoltes d'esclaves, bien évidemment, sans compter l'action des nègres marrons, expression consacrée, pour désigner les esclaves qui se sauvaient hors de leurs plantations et qui s'établissaient dans des zones reculées de la Martinique, de la Guadeloupe, la Réunion, etc.
En cette année 2020, c'est donc ce sujet de l'esclavage qui va occuper le devant de la scène. Comment se manifestent ces actes de vandalisme contre les statues? Est-ce qu'il y a une sorte de rituel qui se met en place à ce moment-là?
Alors, si on regarde, c'est pas tout à fait la même chose si on regarde la France métropolitaine, la France d'outre-mer, enfin, ou les Frances d'outre-mer, et si on regarde certains pays étrangers. Alors, pour rester sur le cas français, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane notamment, mais on pourrait aussi trouver des exemples du côté de la Réunion, il y a eu des destructions, et des destructions absolument sur lesquelles on ne pourra pas revenir, parce que les statues détruites ont été des statues de marbre qu'on ne refera pas. Parce qu'on n'a pas de moule comme on peut en avoir pour une statue de bronze. Alors je pense notamment à la statue de Victor Schœlcher qui se trouvait à Fort-de-France, qui datait de 1904, une très belle statue de marbre. Une autre statue de Victor Schœlcher qui se trouvait dans la commune de Schœlcher, nom donné à la fin du 19e siècle à une commune qui s'appelait Cazenavire. Donc ces deux statues ont été détruites le 22 mai. Un petit peu plus tard, on a vandalisé ou détruit des bustes de Schœlcher qui se trouvaient en Guadeloupe. Il y en a un d'ailleurs qui a été vandalisé encore il y a très peu de temps, il y a quelques mois. Et puis en Guyane, il y avait également une statue de Victor Schœlcher se trouvant à Cayenne, qui a été abattue de son socle. Alors elle était en bronze, mais elle a été assez abîmée et jusqu'à plus ample informée, elle gît toujours dans un dépôt. Enfin, c'était encore le cas il n'y a pas si longtemps que ça, où personne ne s'en occupait. Alors ce qui est intéressant, c'est que on reprochait à cette statue, à la statue de Gertrude Schœlcher de Fort-de-France et à celle de Cayenne, d'être une statue paternaliste, parce que dans les deux cas, Victor Schœlcher était représenté avec un esclave, à Fort-de-France une fillette, avec la main posée sur l'épaule de la fillette. La fillette, dirait-on, lui envoyait un baiser et lui la regardait comme ça de haut, puisque c'était une statue d'enfant et une statue d'homme adulte. Et à Cayenne, c'était un jeune esclave pratiquement de la taille de Victor Schœlcher, mais Schœlcher était en habit redingote assez strict et cet esclave ne portait qu'un pagne. Donc là, c'était là. Et là aussi, Schœlcher avait sa main sur l'épaule de l'esclave. Donc on a jugé là qu'il y avait des attitudes paternaliste absolument insupportable, et que les esclaves affranchis ne devaient pas être représentés comme ça, mais devraient être représentés en train de faire craquer le lien et de s'émanciper eux-mêmes. Alors cette affaire de main sur les épaules m'a beaucoup intéressée, parce que hier, alors c'est une autre affaire de statue, quand on a inauguré à Kensington la statue de Lady Diana, eh bien, en fait, elle est accompagnée d'enfants. Une fillette à sa droite, ou un garçonnet à sa droite, une fillette à sa gauche, peu importe. Et elle a une main posée sur l'épaule de chaque enfant. Et beaucoup de compliments ont été faits de cette statue, de l'humanité, de la princesse. Voilà. Donc là, deux lectures totalement différentes du même geste. Et c'était assez intéressant.
Et aux États-Unis ?
Alors, aux États-Unis, les destructions ont commencé le 31 mai, donc un petit peu moins d'une semaine après la mort de George Floyd. Et ça a commencé par des statues de gens qui ont été liés, bien sûr, à l'histoire de l'esclavage, notamment dans les États du sud du pays. Donc, avec des statues de généraux confédérés, notamment le général Lee, mais aussi le général Wickham, mais également avec des marins, parce qu'il y avait aussi une marine qui était en action à ce moment-là. Mais on a aussi vandalisé ou détruit carrément d'autres types de statues, dont on a beaucoup moins parlé. Alors le deuxième type, ça a été les statues de découvreurs, d'explorateurs, à commencer par Christophe Colomb. Parce que Christophe Colomb est découvreur, donc est rendu responsable de la disparition des populations amérindiennes, et il est même considéré comme un initiateur de l'esclavage. Donc il y a beaucoup de statues de Christophe Colomb qui ont été détruites. Alors celle de New York, qui se trouve en haut d'une très haute colonne, est protégée d'une part par sa position, parce que sauf à tirer dessus à boulet de canon, c'est quand même plus difficile de détruire une statue qui se trouve en haut d'une colonne de plusieurs dizaines de mètres. Et en outre, elle avait déjà été menacée en 2018, parce que toutes ces affaires ne sont pas complètement récentes, hein. Il y avait eu des troubles contre les statues dans les années antérieures. Mais comme cette statue de Christophe Colomb avait été voulue et payé par la communauté italienne de New York, il y avait une sorte d'accord qui s'était établi autour du maintien de cette statue. Mais en revanche, à Miami, à Richmond, à Boston, enfin encore dans d'autres villes, une à Saint-Paul, je crois, dans le Minnesota, les statues ont été détruites, et détruites de manière parfois, j'allais dire une chose un peu ridicule, détruites de manière violente, j'allais dire. C'est La destruction est toujours violente. Mais dans Minoseta, ça s'est accompagné de danses d'Amérindiens qui, ensuite, ont vraiment montré toute leur haine contre la statue, c'est-à-dire contre l'homme. Une vraie mise en scène qu'on trouve d'ailleurs dans d'autres endroits. Et puis alors, le deuxième type de statue vandalisée ou détruite, et là, on en a vraiment pratiquement pas parlé, c'est des statues de missionnaires. Et notamment la statue d'un missionnaire qui a été canonisé il y a pas très longtemps, le père Jupiteros Serra, qui a très nombreuses statues en Californie, et notamment autour de San Francisco. Toutes ces statues ont été vandalisées parce que ce père Jupiteros Serra est regardé comme le responsable de la mort des cultures amérindiennes à cause de l'introduction du christianisme. Et ce vandalisme contre des statues de missionnaires s'est retrouvé également au Portugal, à Lisbonne. Alors, c'est un cas intéressant. C'est un père, j'ai oublié son prénom, son nom de famille, c'est Vieira. Et c'est un religieux qui a beaucoup défendu, pris la défense des enfants des Amérindiens, les protéger contre la rapacité des colons, tout ce que vous voulez. Mais il n'a pas mené d'action contre la traite des esclaves qui était pratiquée aussi par le Portugal. Donc, on lui reproche ce silence sur...
Il n'a pas remis en cause le système.
Il n'a pas remis en cause... Alors, je ne dis pas qu'il a soutenu, je n'en sais rien. Je ne connais pas bien la vie de ce religieux, mais en tous les cas, on lui reproche ce silence sur la traite. Et alors, ce qui m'a intéressée pour le cas français, c'est que précisément... En France, alors pour rester sur le cas des découvreurs et explorateurs, il y a un autre très grand explorateur du XVIIIe siècle, c'est James Cook, dont les statues ont été vandalisées en Nouvelle-Zélande, en Australie, mais également dans le nord du Canada parce qu'il avait fait escale à Anchorage et il avait une statue qui était là. Alors, ce qui est extraordinaire avec ces statues de découvreurs, d'explorateurs, c'est que certes, ils ont volontairement ou directement ou indirectement ouvert la voie à des implantations de colons, à des actions de maltraitance ou de destruction de populations autochtones, de peuples premiers, enfin comme vous voulez. Mais le but essentiel, c'était la découverte de la terre. Enfin, je pense à James Cook, je pense à La Pérouse, je pense à un certain nombre d'autres gens qui ont dressé des cartes. James Cook était un cartographe absolument extraordinaire. Il partait avec des équipes de scientifiques. Ils ont fait progresser la découverte de la faune, de la flore. Enfin, vraiment, la connaissance du monde, de la terre. Mais quand je dis du monde, parce que c'est aussi des étoiles, le ciel étoile, etc., a été extraordinaire. Mais tout ça est totalement occulté par les gens qui détruisent leur statue. Alors, en France, nous avons des statues de découvreurs. Nous avons La Pérouse, notamment à Albi. Il a aussi un buste à Paris, d'ailleurs. Une statue c'est la seule à ma connaissance, des statues de Jacques Cartier, grand découvreur du Canada. Et à ma connaissance, la seule statue de découvreur qui a été, on a du Mont-d'Urville, bien évidemment, à Condé-sur-Noireau, mais à ma connaissance, la seule statue de découvreur qui a été vandalisée est un buste de Christophe Colomb qui se trouve sur un pont de Rouen où se trouvent les bustes d'une dizaine de grands découvreurs et explorateurs par Jean-Marc Dupas. Et Le buste de Christophe Colomb, au printemps ou à l'été 2020, a été vandalisé à deux reprises. Le visage totalement peint de rouge et les inscriptions violeur, assassin, portées sur le socle. Mais ni la Pérouse, ni Cartier, ni Nubon-Durville, n'ont pas été touchés. Et alors, je vais parler d'une dernière statue dont je n'ai pas parlé dans mon livre sur les statues de la Discorde. Si, j'en ai parlé, mais en commettant une erreur. J'ai dit qu'en France, nous n'avions aucune statue érigée en hommage à un homme qui avait pratiqué la traite des Noirs. Vous rappelez, quand on a déboulonné à Bristol la statue de Colston, ensuite Robert Milligan, ensuite Thomas Guy, ces statues avait été érigé en hommage à l'action philanthropique de ces hommes, mais dont la fortune, comme David de Pury à Neuchâtel en Suisse, mais dont la fortune avait été amassée grâce à la traite négrière. J'ai dit, nous n'avions pas le cas en France. Et puis, après coup, j'ai appris que Robert Surcouf, le grand corsaire, qui est statufié à Saint-Malo, en fait, avait eu des actions dans une compagnie de traite négrière pendant quelques années.
En France, c'est Colbert qui a beaucoup centralisé les attaques. Ah oui.
Alors, ce malheureux Colbert. Ce malheureux Colbert qui n'était pas un homme très sympathique, par ailleurs, je crois, qui s'est très mal conduit avec le surintendant Fouquet. Bon, mais passons. Colbert a été chargé par Louis XIV de rédiger un code relatif dans un premier temps à la Martinique afin d'harmoniser les différents règlements portant sur le statut des esclaves, puisqu'avant chaque propriétaire agissait à sa guise et à sa manière. Et il fallait faire savoir de la manière la plus claire possible que le vrai propriétaire de la Martinique et de tout ce qui s'y trouvait, c'était le roi de France. Donc, rédaction d'un code pour harmoniser toutes ces réglementations, toutes ces normes différentes. Colbert commence de s'en charger en 1681, mais il ne le fait pas lui-même, il charge un intendant de la Martinique, puis un second après un changement de poste, de codifier toutes ces normes. Mais lui, il meurt en septembre 1683. Cette première ordonnance relative à la Martinique, elle date de mars 1685. Donc, déjà, quand on dit que Colbert est l'auteur du Code noir, on a déjà une double faute. Il n'en est pas l'auteur, il en est le concepteur uniquement. Et il n'en est pas le concepteur jusqu'au bout, puisqu'il meurt un an et demi avant que l'ordonnance ne soit rédigée et signée d'un premier signataire qui est le roi Louis XIV. Donc, en toute bonne logique, on devrait aller s'en prendre à la statue de Louis XIV, place des Victoires, ou à celle de Lyon, ou à celle de Montpellier. Le deuxième signataire porte bien le nom de Colbert, mais ce n'est pas Colbert qui est mort, c'est Colbert, marquis de Seignelay, fils du grand Colbert. Bon. Enfin, troisième erreur, Code noir. L'expression est apparue tardivement, en 1718, en 1681, 83, 85, on ne parle absolument pas de code noir. Et quatrième point, pour tout aussi bizarre que ça puisse nous, et même révoltant que ça puisse nous paraître, il faut dire que cette ordonnance de 1685 marque un progrès par rapport à ce qui existait antérieurement. Parce que les droits des propriétaires d'esclaves sont limités, cadrés. Et leurs obligations sont affirmées. Obligation de fournir ci, ça, en termes de vêtements, en termes de nourriture. Interdiction de faire ci, ça, en termes de châtiment. Alors, on peut dire, ce qui reste malgré tout prescrit est épouvantable à nos yeux, bien évidemment. Mais c'était moins épouvantable que ce qui existait antérieurement. Alors, on peut dire par ailleurs que dans la mesure où il n'y avait pas de véritable contrôle et inspection de l'application de cette ordonnance, tous les abus antérieurs ont largement continué d'exister. Mais enfin, il faut être nuancé et remettre les choses à leur place. Voilà.
Ces actes de vandalisme contre des...
Alors, pardon, puisqu'on parlait de Colbert, je précise que le vandale, je tiens à lui donner ce nom de vandale, de cette statue, Franco Lolia, qui est un des cofondateurs de la brigade antinégrophobie d'État, c'est un groupe qui a été fondé en 2005, et est passé en jugement le 10 mai, date... du hasard, je pense, mais symbolique, puisque c'est la fête, enfin c'est le jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage en France métropolitaine. Et le jugement a été mis en délibéré, comme souvent dans ce genre de jugement, et le jugement est tombé le 28 juin. Et Franco Lolia était poursuivi pour destruction de biens publics. Il encourait 3 750 € d'amende et des peines d'intérêt général. Le procureur a requis 800 € et il était condamné à 500. Et j'ai vu sur un site, mais seulement sur un site, que par ailleurs, il doit verser 1 041 € de dommages et intérêts à l'Assemblée nationale. Donc d'ailleurs, Franco Lolia fait appel de ce jugement et demande en outre le retrait de la statue, qui n'est d'ailleurs pas la statue d'origine, parce que les 4 statues de chancelier qui se trouvent devant l'Assemblée nationale sont des répliques en résine. Elles étaient trop abîmées par la pollution et en 1988, on a envoyé tous les originaux dans la ville natale des personnages représentés. Alors, il demande le retrait, alors qu'à d'autres moments, d'après ce que dit Huffington Post, il ne demandait pas le retrait parce qu'il disait le retrait sera une manière d'effacer l'histoire. Il faut la laisser, mais avec toutes les explications nécessaires. Là, il demanderait le retrait, apparemment, je ne sais pas très bien. En tous les cas, je sais qu'il est absolument furieux de ce jugement parce qu'il dit « je ne suis pas un tagueur ». On a fait un procès qui est le procès d'un tagueur, de quelqu'un qui a détruit un bien public. J'ai passé l'âge du coloriage. Je voulais un procès politique portant sur l'esclavage et sur la négrophobie de l'État. Voilà, on en est. Intéressant.
Et justement, dans la société civile, comment les opinions se partagent sur ces sujets-là, qui sont extrêmement clivants ?
Ah, ce sont des sujets... très très clivant en effet. D'après moi, enfin, il y a eu des sondages faits à des dates différentes. D'après les différents sondages que j'ai regardés, la majeure partie de la population demande le maintien enfin s'oppose à la destruction ou même au retrait des statuts, mais privilégie plutôt la solution qui consisterait à mettre des panneaux explicatifs à côté des statuts contestés. Pour expliquer ce qu'a fait ce personnage-là et pourquoi on peut estimer qu'il est plus blâmable qu'admirable. Alors, je comprends tout à fait cette option. Je serais plutôt pour, d'ailleurs, puisque je suis opposée à la destruction et même au retrait. Seulement, je me dis, parce que je m'en suis rendu compte quand je travaillais pour le peuple des statues, qu'en réalité, personne ne regarde les statues. Et le grand paradoxe de cette année 2020 a été, et des destructions, a été d'attirer l'attention de l'opinion publique sur des statues devant lesquelles tout le monde passait sans s'arrêter. Donc, je me dis, les gens ne regardaient pas les statues, ne lisaient pas les inscriptions, parce que vous avez des piédestaux avec de très très longues inscriptions qui donnent beaucoup d'informations sur le personnage et sur l'histoire de la statue même. Alors, est-ce que les gens s'arrêteront pour lire des panneaux explicatifs à côté d'une statue ? Je n'en suis pas certaine du tout. En fait, Moi, j'ai l'impression que tout ça va finir par se calmer et puis que les statues vont retomber dans leur anonymat. Ce qui fait d'ailleurs, je reviens un peu en arrière, que des éditeurs en 2015, 2016, 2017 avaient peut-être raison de me dire que les statues n'intéressaient personne. Je n'en sais rien.
Parce que dans les solutions proposées, vous en avez parlé, c'est effectivement la mise en contexte de telle ou telle statue par un panneau explicatif. Ça peut être aussi leur retrait ou leur déplacement dans un musée.
Alors ça, c'est une solution.
Pour certains, ils auraient plus leur place que dans l'espace public.
Oui, alors ça, c'est une solution qui est préconisée et qui est déjà d'ailleurs mise en œuvre dans certains pays, notamment en Allemagne, notamment à Berlin. Ça pourrait être une solution, en effet, de le retirer pour ce qui serait aussi une manière de les mettre à l'abri et de dire, bon, si on les met dans un musée, alors une statue dans tel musée, une statue dans tel autre, ou alors de faire une sorte de, comme ça a été fait à Berlin, de grand parc en quelque sorte de statues, où on irait les voir que les gens qui n'ont envie de les voir. Pourquoi pas ? À dire vrai, moi, la solution que je privilégie dans mon four intérieur, parce que mon avis n'intéresse personne, mais enfin, mon opinion serait plutôt de rééquilibrer le parc des statues en érigeant en place publique des catégories de gens qui, jusqu'à présent, n'ont pas été statufiés ou très peu statufiés. Alors, laissons de côté les femmes, sauf à parler de femmes qui sont liées à l'histoire de l'esclavage ou de la colonisation. Il y a une femme précisément dont on a beaucoup parlé il y a quelques mois, c'est la mulâtresse Solitude, qui avait été rendue célèbre par un roman d'André Schwarzbart au début des années 70, La mulâtresse Solitude. Alors, La mulâtresse Solitude a son jardin à Paris depuis quelques mois. Elle doit avoir prochainement une statue, mais elle a déjà une statue à Bagneux depuis tournant du siècle, quelque chose comme ça. Une statue de Nicolas Alcquin, qui se trouve maintenant sur un rond-point à Bagneux. Mais à dire vrai, c'est une statue plus conceptuelle que figurative. Donc quand on passe près de ce rond-point, on ne se rend pas vraiment compte qu'on a affaire à une statue d'esclave. Solitude faisait partie des combattants de Louis Delgrès contre le rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe et elle était enceinte quand elle a été faite prisonnière en 1802 et on l'a laissée aller jusqu'au terme de sa grossesse pour garder l'enfant comme future esclave et elle a ensuite été pendue, je crois. Et il y a une autre femme esclave qui est statufiée comme Solitude d'ailleurs, qui est aussi statufiée en Guadeloupe aux Abîmes, une esclave qui a été pendue en 1822, l'esclave Gertrude. C'est aussi des statues de femmes, on va dire, mais aussi des statues d'esclaves ou d'hommes libres de couleur, comme Louis Delgrès, qui ont combattu pour la liberté des esclaves. Et on va bien sûr penser à Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, il a déjà, je ne veux pas dire que c'est trop, mais enfin tous les hommes publics n'ont pas trois statues en France, surtout qu'il s'agit de trois statues en pied. Il a une statue à Massy-Palaiseau, il a enfin deux statues en pied, une à Statue-Palaiseau et une d'Ousmane-Sau à La Rochelle. Il a un buste à Bordeaux. Il y a une autre femme, ancienne esclave de couleur, qui se trouve statufiée à Bordeaux, Modeste Testas. Mais autrement, on peut penser à d'autres. Il y a des statues également de combattants, des esclaves qui ont combattu pour la liberté à La Réunion, il y en a un certain nombre. Mais on peut penser plus largement
à des statues d'hommes de couleur, d'hommes noirs, d'hommes racisés, enfin je ne sais plus trop comment on peut dire ou comment il faut dire. Donc on avait la statue du général Alexandre Dumas, qui a été refondue comme tant d'autres statues sous Vichy. Elle n'a pas été, quand il a été question de la refaire, ce choix n'a pas été retenu et on a mis à la place un grand monument symbolique qui représente des fers ouvert, mais avec des chaînes pendantes. Il est question de refaire cette statue du général Alexandre Dumas dans le 17e arrondissement, là où il y a déjà des statues de son fils, donc Alexandre Dumas père, mais en fait fils du général, et puis Alexandre Dumas fils, donc petit-fils du général. Donc si on la refaisait, on aurait de nouveau les trois Dumas. Mais bon, on peut penser à d'autres hommes de couleur, des gens qui ont été députés, qui ont été sénateurs, et je pense notamment à la statue, au buste de Gaston Monnerville, qui a été longtemps président du Sénat et dont le buste a été érigé par derrière les jardins du Luxembourg, plus exactement entre deux morceaux des jardins du Luxembourg, qui sont les jardins du Sénat. Gaston Monnerville a aussi un buste à s'insérer sur Lot parce qu'il était sénateur du Lot. Voilà, mais donc il faut multiplier ce genre de statues, multiplier les statues des gens originaires d'Algérie, du Maroc, du Sénégal, qui se sont battus dans les armées françaises, que ce soit en 14-18, que ce soit en 39-40, que ce soit dans la résistance, bien sûr.
C'est une volonté des pouvoirs publics. Alors, de toute façon, rapport a été demandé récemment sur ce sujet, les noms de rues, par exemple.
Oui, alors, il y a eu la déclaration d'Emmanuel Macron qui remonte, je crois, le 4 décembre 2020, par rapport à l'onomastique, mais également à la statuaire. Il y a une commission qui a été mise en place, mais dont le rapport a été rendu avec 316, je crois, noms qui ont été avancés, parmi lesquels, je dois dire d'ailleurs que j'étais un petit peu étonnée, j'étais étonnée tout bêtement, parce que c'est des noms de gens auxquels j'aurais pas pensé, mais par exemple Lino Ventura, en fait ça reprend un petit peu, d'ailleurs Pascal Horry était dans cette commission, et ça reprend des noms qui se trouve dans le dictionnaire des étrangers qui ont fait la France, qu'il avait co-dirigé. Donc voilà.
Peut-être pour finir, s'il y a une statue de notre espace public qui n'est peut-être pas très connue, mais qui mériterait une petite visite. Est-ce que vous en avez une en tête ?
Ah ! Mais je connais tellement de statues que voyons voir, est-ce que j'ai une statue préférée ? Eh bien écoutez, je vous envoie à Toulouse pour une statue d'Antoine de Saint-Exupéry avec le petit prince. Si je me souviens bien, vous m'avez prise là vraiment dépourvue, si je me souviens bien, c'est une statue de Madeleine Tessas du Moncel, je crois que c'est le nom de la sculptrice. C'est une statue que j'aime beaucoup, mais il y en a certainement beaucoup d'autres que j'aime. J'aime bien la statue de Turenne Enfant, qui se trouve à Paris, dans le 3e arrondissement. La statue d'Hélène Boucher, enfant. Hélène Boucher, la grande aviatrice. Alors, qui se trouve dans un département d'Île-de-France, je crois, mais je ne sais plus lequel. Et elle est représentée en aviatrice, on veut dire, mais non pas à l'âge adulte, elle est enfant et elle a un avion de papier à la main. Je la trouve mignonne comme tout, cette statue. Turenne enfant est assez mignon. Turenne n'est pas un personnage très sympathique en tant que guerrier, on va dire. Mais Turenne enfant, mon Dieu.
Eh bien, un grand merci, Jacqueline Lalouette. Je rappelle donc le titre de vos deux livres, Un peuple de statues, la célébration sculptée des grands hommes, chez Marie Martin. Donc, c'est un livre illustré qui recense l'ensemble des statues en France.
Pas l'ensemble, il y en a près de 4000, mais je n'arrive pas à savoir quel pourcentage ça représente. Est-ce que c'est la moitié, plus de la moitié, les deux tiers, plus des deux tiers ? Très difficile de connaître l'ensemble des statues.
En tout cas, c'est un guide précieux et illustré et un livre plus récent, Les statues de la discorde, aux éditions Passé Composé. À bientôt.
Merci beaucoup.